musique.
RFI 8h30 à Paris, 6h30 en temps universel. L'heure du journal avec vous, Martin Guez, bonjour.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous. À la une, le Tchad, Idriss Youssouf Boy, condamné à 5 ans de prison. L'ancien directeur de cabinet du président Mahamat Idriss Déby, écroué pour corruption passive. Même peine pour son accusateur, Abou Hachim Bouder. On y revient dès le début de ce journal avec Nadia Ben Mahfoud. La diplomatie parlementaire de Kinshasa à l'œuvre. Le président de l'Assemblée nationale congolaise, Vital Kamerhe, est à Kampala. Alors que les relations entre la RDC et l'Ouganda comprennent certaines crispations. Notre dossier du jour nous mènera dans les célèbres villages lacustres du Bénin. Mais derrière les belles images des pirogues et des maisons sur pilotis se cache un problème structurel d'accès à l'eau potable. Enfin, Souleymane Sissoko face à son destin. Le boxeur français natif de Dakar dispute le combat le plus important de sa carrière ce soir à Malabo. 5 ans de prison et une amende d'1 million de francs CFA pour Idriss Youssouf Boy, mais aussi pour son accusateur, l'homme d'affaires Abou Hachim Bouder. Idriss Youssouf Boy, ancien bras droit du président Mahamat Idriss Déby, condamné pour corruption passive. Le juge a accédé aux arguments du procureur selon lesquels il aurait perçu plusieurs milliards de francs CFA du plaignant en échange de l'obtention de marchés publics. La justice a en revanche écarté les charges de trafic d'influence et d'abus de fonction. À N'Djamena, Nadia Ben Mahfoud.
Suite au verdict, la défense d'Idriss Youssouf Boy exprime sa surprise et dénonce l'absence de preuves matérielles dans le dossier. Maître Girandi Lagarde-Dionro, avocat au barreau du Tchad.
Monsieur Idriss Youssouf Boy, connaissant son rôle, le rôle qu'il a joué pendant toute la période de la transition, jusqu'à même une période récente, il gêne beaucoup. Il y a des gens qui ont intérêt à le nuire politiquement, qui veulent qu'il soit en prison. Comme ça, ça leur laisse libre cours de faire tout ce qu'ils veulent auprès du chef de l'État. Il y a clairement des pressions politiques. C'est une fois encore une grande interrogation pour moi en tant qu'avocat sur ce qu'est l'indépendance de notre justice et l'indépendance des magistrats.
Les avocats d'Abou Hachim Bouder estiment qu'il s'agit d'une très mauvaise décision en raison de l'audition pendant le procès de plusieurs témoins qui confirment avoir entendu Idriss Youssouf Boy reconnaître devoir plusieurs milliards de francs CFA à l'homme d'affaires. Maître Ngadadoum Josué, l'un des avocats d'Abou Hachim Bouder.
Moi, mon client a déposé plainte pour escroquerie aggravée. Il a été dépossédé de 11 milliards 800 millions de francs CFA. On ne peut pas passer cette somme-là en perte et profit, même si son adversaire écope également de 50 de prison. C'est lui qui sort totalement perdant. Je pense que même les sages sous un arbre à palabre rendraient mieux une bonne justice que celle-là.
Le verdict ne satisfait donc aucune des parties. Les avocats d'Idriss Youssouf Boy annoncent faire appel immédiatement. Ceux d'Abou Hachim Bouder espèrent que la cour d'appel regardera ce dossier avec un autre œil. Un nouvel épisode judiciaire qui pourrait prendre plusieurs mois. Nadia Ben Mahfoud, N'Djamena, RFI.
Et selon la chaîne tchadienne Manara TV, les avocats de l'accusateur Abou Hachim Bouder ont aussi fait appel de cette condamnation. La chute d'Idriss Youssouf Boy, on y revient aussi sur notre site internet RFI.fr. Décryptage à lire à l'onglet Afrique. Léon XIV a pris ses fonctions et vit ses premiers jours dans la peau de pape. Robert Francis Prévost, américano-péruvien de 69 ans, qui se tourne vers les pays du Sud dans la continuité de François, son prédécesseur. Léon XIV, qui s'est d'ailleurs déjà rendu à plusieurs reprises sur le continent africain, au Kenya, en Tanzanie, mais aussi en RDC, et pas seulement à Kinshasa. Il est allé dans le Bas et le Haut-Wélé, dans la paroisse de Dungu, à plus de 2000 km de la capitale. Et sa nomination suscite émotion et espoir chez l'évêque de Mbujimayi, la grande ville du Kasaï, dans le centre-sud de la RDC. Mbujimayi, diocèse d'une population de 4 millions d'habitants, la moitié est catholique. Monseigneur Emmanuel Bernard Kassan Moulenga, très enthousiaste après la nomination de Léon XIV.
Ce pape, depuis qu'il sort derrière, moi je n'ai pas vu des pronostics, on ne parle pas de lui. Et là, il sort. Et avec alors encore un projet de société, et même un projet de l'Église. Dans l'Église, on parlait déjà de progressistes et de conservateurs. Et ce pape, d'après le nom qu'il a pris, on sent qu'il fera comme son prédécesseur, Léon XIII, pour mettre ensemble des vues divergentes, rapprocher ceux qui se sentaient séparés et surtout garder la droite ligne de l'Église. Vous voyez, je vois aussi il y a une concordance là entre Léon XIII qui a vécu plus de 25 ans jusqu'à 93 ans comme pape, un pontificat long comme celui de Jean-Paul II, et celui-ci qui vient d'être élu à 69 ans, je crois qu'il est appelé pour un long terme afin de stabiliser notre Église et puis dans tout cela, de nous rapprocher de la vérité de l'Évangile dans notre vie.
Monseigneur Emmanuel Bernard, Cassandre Moulenga, joint par Amélie Tullé, tous les autres témoignages de fidèles recueillis par Amélie, rencontrés par Léon XIV au sein des communautés augustiniennes de l'Est de la RDC, sont à lire sur notre site et sur l'application RFI. L'actualité congolaise, c'est aussi cette visite de Vital Kamerhe à Kampala, le président de l'Assemblée nationale qui s'est rendu en Ouganda avec une délégation de députés. Objectif de ce déplacement de 2 jours, renforcer la diplomatie parlementaire entre les deux pays. Dans un contexte de méfiance du côté de Kinshasa, la coopération militaire entre les deux pays comprend certaines zones d'ombre. Explication, Passion Ligodi.
La visite de Vital Kamerhe en Ouganda s'inscrit dans un cadre institutionnel entre l'Assemblée nationale de la RDC et le Parlement ougandais. À Kinshasa, on parle de diplomatie parlementaire, l'idée de construire une relation de confiance, d'anticiper les malentendus et de dissiper les suspicions. Il faut dire que malgré une coopération militaire active entre Kinshasa et Kampala, la méfiance demeure. Les autorités congolaises s'inquiètent du passage régulier sur le sol ougandais de certains opposants. Le cas le plus évoqué ces dernières semaines reste celui de Thomas Lubanga, ancien détenu de la Cour pénale internationale, qui a annoncé en mars dernier la création d'un mouvement politico-militaire contre le pouvoir en place à Kinshasa. L'objectif affiché par ces missions, mettre en place un groupe bilatéral d'amitié entre les deux parlements. Ce mécanisme permettrait d'évaluer régulièrement des projets d'intégration économique, mais aussi les efforts communs en matière de sécurité transfrontalière. Il y a 5 mois, une première délégation des 10 députés congolais, conduite par Lambert Mende Malanga, avait été reçue par le président ougandais Yoweri Museveni.
Patient Ligodi sur RFI. Le Burundi s'apprête à organiser des élections communes, scrutin législatif et communal à venir le 5 juin prochain. Campagne lancée hier à Kitega, dans le centre du pays. Un lancement officiel en forme de levée de rideau. La campagne débutera réellement mardi et se prolongera jusqu'au 2 juin. Le but est d'afficher un pays apaisé, de montrer une démocratie où les partis politiques, ceux du pouvoir comme de l'opposition, vivent en bonne intelligence. Mais derrière l'union de façade, une partie de l'opposition a préféré ne pas participer à cette grande cérémonie hier à Gitega. Esdras Nkoumana.
Drapeau de tous les partis politiques déployés dans les rues de la capitale Gitega, des milliers de candidats aux élections du 5 juin qui défilent en uniforme de leur parti, discours notamment du chef du CNDD-FDD au pouvoir, suivi de celui d'un représentant de l'opposition. Pour le président Evariste Ndayishimiye, c'est assurément le signe que la démocratie s'est enracinée au Burundi.
Nous vivons aujourd'hui un jour historique. C'est aussi le signe extraordinaire du pas franchi en matière de démocratie, parce que nous sommes en train de lancer, tous ensemble et dans l'unité, la campagne électorale pour les prochaines élections.
Mais ce ne sont pas tous les partis politiques burundais qui ont accepté de jouer le jeu. Ce qui se considère comme les véritables opposants, comme la coalition Burundi Bravo OC, un Burundais pour tous en français, ou encore le parti CDP de Anicet Niyonkuru, ont boycotté l'événement, comme ce dernier l'explique.
Nous sommes sur terrain dans tout le pays. Nous vivons des problèmes à chaque fois que nous avons des descentes. C'est rarement qu'on nous laisse libre. La concurrence politique n'est pas libre. Les Burundais sont malheureux, ils ont un problème de survie. Tout est calme, effectivement, mais c'est un calme de cimetière. Ce n'est pas un calme de bonheur. Cette démocratie que l'on chante, je ne vois pas où elle se trouve.
Autre grand absent hier à Gitega, Agathon Rwasa, le leader historique de l'opposition, empêché de se présenter aux législatives par une série de manœuvres et de dispositions électorales du pouvoir, selon ses proches.
Explication signée, Esdras Nkoumana. RFI, 7h38 à Bangui, en Centrafrique. Deuxième nuit derrière les barreaux pour le journaliste Landré Ulrich Gema Ngokpele, directeur de publication du quotidien de Bangui. Il a été arrêté jeudi après-midi par la gendarmerie pour des motifs encore flous. La presse locale dénonce une arrestation arbitraire à motif politique et déplore l'absence d'explication du parquet sur les raisons de cette interpellation. Et puis Centrafrique toujours, où le parquet, cette fois-ci, a communiqué après le transfert à Bangui du rebelle Armel Sayo, transfert en provenance du Cameroun qui s'est effectué dans la nuit de lundi à mardi. Le procureur de la République précise que le chef du groupe Coalition Militaire pour le Salut du Peuple et le Redressement est poursuivi pour association de malfaiteurs, rébellion, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et atteinte à la sûreté de l'État, et ce pour une attaque commise par ses hommes contre l'armée en février dernier. Le procureur qui confirme que plusieurs autres personnes ont été arrêtées en lien avec cette affaire, sans dire précisément combien. Place à notre dossier. À présent, et direction les célèbres villages lacustres du Bénin, Les images de Ganvier font régulièrement le tour du monde. Village sur pilotis, aux allures de cartes postales, où les pirogues naviguent. Mais derrière ces clichés de paradis terrestre, une autre réalité, ces localités qui font face à des problèmes d'eau potable, notamment dans la commune de Soava, un problème récurrent. Les premiers forages ont été réalisés en 1986 par le diocèse de Cotonou. Déjà à l'époque, les habitants manquaient d'eau et consommaient celle impropre du lac, ce qui a notamment propagé le choléra, des forages hydrauliques indispensables mais devenus vétustes. Un projet d'ampleur d'assainissement est par ailleurs mené depuis près de 20 ans avec l'appui d'ONG comme Emmaüs International, ce qui a permis à Soava de se doter de 9 points d'eau, que Penaï Traoré.
Près de 20 ans après, la plupart de ces infrastructures ne sont plus en bon état et leur gestion est aussi pointée du doigt. Antoine Midofi Unga, responsable de l'ONG Sonagnon, une association qui travaille auprès des populations du lac Nokwe depuis 2002.
Depuis que l'État central a récupéré tous les points d'eau et l'a confié à des fermiers privés, cela rend un peu compliqué la gestion. Les entreprises privées sont basées sur le bénéfice, donc l'accompagnement ne suit pas souvent la réparation des infrastructures.
La population de Soava continue d'augmenter de 80 000 habitants dans les années 80. Elle est passée à 130 000 aujourd'hui. Les fontaines existantes ne suffisent plus. Certains villages dépendent des localités voisines. Antonin Unga.
Les parties qui n'ont pas accès à l'eau potable, ils sont obligés de faire recours vers les villages qui sont plus proches. Et vous savez très bien qu'en milieu lacustre, l'eau peut ne pas être polluée à l'approvisionnement, mais lors du transport dans la barque, elle peut être polluée. Donc voilà un peu le danger que court cette population.
Plusieurs villages de Soava disposent encore de fontaines fonctionnelles, mais les habitants déplorent aussi le coût de l'eau.
Et par ailleurs, le gouvernement béninois a lancé en 2023 la construction d'un château d'eau qui doit servir justement à alimenter les villages lacustres de Soava. Soava dont André Oussou-Todje est le maire.
Aujourd'hui, l'État est en train de faire des efforts. Pour la commune de Soava, que nous appelons Ganvier réinventé, dans ce projet, il y a un volet électrification, ce qui se fait. Dans ce projet, il y a un volet traitement des eaux usées et installation d'un centre d'épuration. Il y a un volet adduction d'eau. Aujourd'hui, l'État est en train de construire un château d'eau de plus de 1000 mètres cubes à Calavi qui va alimenter les 40 000 habitants de Ganvier. Et par ricochet, les villages qui sont proches de Ganvier peuvent être alimentés par cette installation hydraulique que l'État est en train de réaliser aujourd'hui. Et à un mois et demi, on a appelé les chefs de village et les populations pour expliquer le projet, pour que les gens puissent céder des terres pour mettre en place des bonnes fontaines.
André Oussou-Todje, maire de Ganvier réinventé, comprenait maire de Soava. Il sera justement tout à l'heure l'invité de Kpenaï Traoré. Rendez-vous à 13h10, temps universel, pour un numéro spécial d'un jour au village consacré à ces villages lacustres du Bénin. On termine à Malabo, en Guinée équatoriale, où Souleymane Sissoko fait chauffer les gants. Le boxeur français de 33 ans, natif de Dakar, a rendez-vous avec le lituanien Kavaliauskas pour le combat le plus important de sa carrière. Une demi-finale mondiale des moins de 67 kilos. Souleymane Sissoko, invaincu en 17 combats professionnels, il se méfie grandement de son adversaire, Kavaliauskas, qui compte 24 victoires pour seulement 2 défaites, ce qui invite à la prudence et à l'humilité.
J'ai un très bon adversaire qui a de l'expérience. Il a fait 2 fois les Jeux Olympiques. Il a déjà fait un championnat du monde. Il a plus de combats pro que moi. C'est un boxeur des pays de l'Est, hein, qui est lituanien, qui avance, qui est très fort physiquement et qui frappe très fort. Donc voilà, c'est un boxeur qui est complet, qui a perdu ses 2 défaites. C'est contre les meilleurs mondiaux. Un contre Terence Crawford, qui est toujours invaincu, et contre Virgil Ortiz, qui est toujours invaincu. Donc il ne perd pas contre n'importe qui. Il a gagné aussi face à énormément de bons boxeurs.
Souleymane Sissoko avec Sofiane Amazian, un combat à Malabo qui ne débutera pas avant 20h30 temps universel. Et puis un peu plus tôt ce samedi, une demi-finale mondiale pour le Sénégal en beach soccer. Ça se passe à Victoria, aux Seychelles, et ce sera contre la Biélorussie à 14h temps universel. RFI 8h44 ici à Paris, l'heure de retrouver Julien Coquel-Roem.